Entrepreneur State of Africa est un podcast produit par Totem Factory by Totem Experience.
Salut à tous!
Bienvenue dans le podcast Entrepreneur State of Africa.
Le podcast qui dit tout haut
ce que les entrepreneurs pensent
tout bas.
Et dans le registre des choses qu'on pense tout bas, depuis 3 ans, Kaï a conçu un concept unique qu'il va vous présenter.
Les 7 péchés capitaux.
Ouh.
7 épisodes totalement spéciaux. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, le propre de l'entrepreneur, c'est d'innover. C'est ce qu'on a voulu faire pour ces 7 épisodes. L'idée, c'est que dans le podcast, on vous partage beaucoup nos expériences. Mais là, on va aller plus loin en essayant de partager avec vous ce qu'on ressent, ce qu'on a dans la tête, mais également dans le cœur. Et on espère vraiment que ce qu'on va partager avec vous va vous permettre de connecter avec aussi des sensations que parfois vous n'arrivez pas à expliquer. On a vraiment hâte de lire vos commentaires et on espère surtout que vous allez prendre autant de plaisir à regarder cette série que nous on a pris à tourner
et que vous vous abonnerez pour nous, même pas forcément pour nous remercier uniquement, mais si vous pensez que vous voulez en voir plus, que ce qu'on évoque sont des choses qui doivent être partagées, parce que la culture entrepreneuriale qu'on veut partager n'est pas que pour les entrepreneurs, elle est pour tous. Abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez les moments et surtout commentez et dites-nous ce que vous voulez voir de plus comme thème, comme sujet.
Entrepreneur State of Africa hors série spéciale été 2023.
C'est parti.
C'est parti.
Gourmandise. Jusqu'où ? La gourmandise qui aime manger en quantité les bonnes choses. La gloutonnerie plutôt. Cette dernière impliquant davantage l'idée de démesure et d'aveuglement que le mot gourmandise.
Shalom.
Salam.
Salut.
Bon, je vous salam avec un burger. C'est un moment important pour moi en tant que youtubeur. Comme je t'ai expliqué.
Parce que tu es youtubeur maintenant. Ah oui, c'était un rêve.
C'était un rêve en regardant les youtubeurs Epic Mealtime, etc., qui font des trucs horribles sur la bouffe, de présenter un jour une table aussi dégueulasse, mais qui ne peut être que dans un thème aussi beau et aussi stylé que la gourmandise.
La gourmandise, le péché capital du jour.
Yep.
L'entrepreneur face à la gourmandise.
Pour une fois, on va manger en parlant.
Il en est où ton régime là dont tu parles depuis
Je tiens à dire qu'encore une fois, que ce n'est pas un régime, c'est un nouveau style de vie. Dans ce nouveau style de vie, non, je ne mangerai pas comme ça. Comme vous voyez, ce n'est pas possible. Dans ce nouveau style de vie, je serai plutôt juste limité à... Qu'est-ce qui se passe là ? APF, pour ceux qui connaissent les bonnes choses de la vie. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement. Ce serait essentiellement ça. Tout le reste là, c'est du shaitan. Que je prendrais, je peux quasiment plus manger, mais...
Ouais, tu tchèpes là-bas.
Ouais, un petit...
Passe-moi le bissap.
Tu veux le bissap ? Oui, monsieur. C'est important. Bouge pas, voilà. Merci. Donc non.
Donc quel est le lien gourmandise et entrepreneuriat ?
Ben, en fait, c'est intéressant parce que je pense que les gens ne le voient pas immédiatement, mais c'est surtout sur déjà la première question qu'on a remarquée, nous, et pour revenir un peu sur l'épisode qu'on a fait récemment avec Fabrice Sauvignon. Il y a déjà ce truc de, les gens, dès que ça commence, un peu comme quand on mange, tu sais, on dit l'appétit vient en mangeant. T'as des gens qui, dès qu'ils lancent un business, notamment quand on lance un projet, t'as des amis ou des gens qui se déchirent alors qu'il n'y a rien sur qui a quelle part du gâteau qui n'existe pas. On n'a même pas la farine du gâteau, mais ça se bat des gens en disant, moi, je veux plus que 50%, moi, je ne peux pas te donner plus que 10%. Et au contraire, les gens sortent de, un peu comme de la gourmandise, les gens pensent beaucoup au plaisir qu'ils auraient dans le succès, et ils pensent même pas au fait que déjà il faut faire le travail pour arriver à mériter d'être aussi
content. Mais ça t'est souvent arrivé d'avoir des amis qui se lancent et qui viennent te voir en disant ouais, bon, avec mes associés, on est en train de réfléchir, mais bon, j'ai eu l'idée, et donc voilà, on sait pas comment, mais bon, si j'ai 30%, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Non, c'est plus dans l'autre sens. En général, c'est celui qui a l'idée qui a du mal avec les autres, qui trouve gourmand. Et donc, pour faire un lien avec le péché capital autre qui est l'avarice, excusez pour ceux qui nous écoutent, hein, parce que je sais que c'est important, on sait que les gens nous écoutent, ne nous regardent pas toujours, donc ça vous a entendu un peu de bouffe, c'est normal. Ça n'a pas duré éternellement dans l'épisode, je pense.
Les 600 personnes qui écoutent sur les plateformes audio, déjà un petit coucou,
parce qu'on vous aime.
Salut jamais.
On vous aime quand même, sachez-le.
Mais cette fois,
ça vaut le coup d'aller faire un petit, de jeter un petit coup d'œil sur YouTube.
En gros, ça fait un lien avec la gourmandise et l'avarice, qui sont un peu les deux péchés capitaux qui se font miroir quand quelqu'un, quand on commence un projet. T'as l'avarice de celui qui pense qu'il l'a, et la gourmandise de celui qui veut rejoindre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a celui qui veut pas, qui veut le moins partager, et celui qui veut le plus. Et je pense que tu avais décrit des situations de manière très, très détaillée dans l'épisode où on avait parlé de comment l'entrepreneuriat parfois peut briser des amitiés. Je ne sais plus le numéro de l'épisode, mais je pense que vous le retrouverez assez facilement sur la chaîne. C'est un qui a le plus marché. Et c'est vrai que quand on démarre, on met un peu la charrue avant les bœufs parce que...
La charrue bien avant les bœufs.
Voilà, on se voit en haut de l'affiche. On dit, mais quand ça va marcher, quand ça fera un milliard, il faut que j'ai mon pourcentage. Mmh. Et on en revient toujours à la même chose. Avant ça, il y a l'idée, certes, mais il y a l'exécution de l'idée. Il faut vraiment, je pense, dans l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas amoureux du process et si vous ne définissez pas l'entrepreneuriat comme un voyage, c'est très difficile. Parce que si tu définis l'entrepreneuriat comme un gâteau ou une pizza...
Ou une pizza, j'avoue que toi qui aimes les pizzas.
Oui, bon.
D'ailleurs, c'est ton gros truc. D'ailleurs, dans toute histoire, j'ai découvert que Kai peut être impatient.
Off, ça, c'était
en off. Sachez que Kai peut être impatient. Kai peut se fâcher.
Très fâché. J'ai juste demandé à manger chaud.
Et mais tu n'étais pas content que ça ait refroidi. Parce que c'est la première fois que je te vois être un peu même impatient. Quelque chose. Toi, tu es le moine. Parce que tu parles de mes régimes. Toi, tu es le moine du podcast. Une force tranquille. Tout ça.
C'est pas un péché capital.
Ah, ça. Mais par contre, si vous le mettez face à une pizza froide, vous allez voir un autre Kai. Hein, sachez-le.
En tout cas.
Un truc, tu sais, quand tu parlais tout à l'heure même de projet, je pense que plus que le chemin, je re-insiste sur l'épisode qu'on vient de tourner avec Fabrice Savagnon, parce que même, tu sais, le passage où il disait les gars qui lui ont demandé à chaque fois pour qu'il rencontre Kris Jenner, chaque personne qui lui a dit moi je te présente, mais à condition que tu me donnes mon pourcentage. Et qu'il a dit oui.
Il a dit oui tout de suite.
Tout de suite. Je t'ai dit, je pense pas. Si tu dis à quelqu'un pour lancer ton projet, il faut que tu me donnes 10%, beaucoup de gens te diraient non. Ils préfèrent tanker leur projet. Quelque chose, c'est de l'avarice. Mais c'est, en fait, pour moi, c'est de la gourmandise pure parce que tu n'as même pas commencé, en fait. C'est comme on dit, avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est un peu l'équivalent de la charrue avant les bœufs. C'est qu'en fait, tu t'occupes tellement du gain potentiel que tu fais même pas ce qu'il faut pour que ça devienne réel. Parce qu'eux, ils n'avaient rien. Ils auraient pu même pas avoir Kris Jenner jamais. Mais des gens auraient dit, moi, je ne te donne pas 10%. Et surtout quand tu en as plusieurs qui ont dit ça. Un gars l'a dit, deuxième gars l'a dit, troisième gars l'a dit. À chaque fois, ils disent OK. Donc, il y a une nécessité pour moi quand tu es entrepreneur, d'être, comme tu dis, sur le chemin, mais aussi pragmatique. Il faut que tu puisses dire, à un moment, je vais devoir donner, je vais devoir me mesurer. Il y a des et après, on rentre dans l'autre partie qui est importante, c'est tes limites. Parce que, bon, comme tu vois, même là, tu vois, j'aime beaucoup Burger King, mais maintenant, tu vois, j'arrive même plus à finir un burger.
Ouais, va falloir qu'on bip, hein, on n'est pas payé, tu fais de la pub comme ça.
Oh, excusez-moi, je sais que... Pardonnez, moi je suis un gars du peuple, genre non, c'est pas tout ça. Mais du coup, on peut faire de la pub pour d'autres, hein, tu vois, comme vous voyez, il y a aussi des fast-food africains, tu vois,
oui,
tout ça.
Ah oui, ça oui.
Chap Express, tu veux bien?
Chap Chap, oui.
Très bon. L'Angela Fries, c'est de la cam. Bangou Beef, incroyable.
Des jeunes qui se battent.
Voilà, on aime.
Verra 3.
On aime. Donc.
Les opportunités viennent à toi. Tu as étudié le marché, tu t'es positionné dans le marché de telle sorte que forcément, pas mal d'opportunités viennent à toi. Et les opportunités viennent parfois d'un point de vue, on veut proposer quelque chose à ta société, parfois qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais on te le présente en disant que voilà, c'est une très belle opportunité pour toi, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, tu y vas ou tu y vas pas? Tu as l'autre cas aussi dans la vie personnelle. Les gens se disent « Ah, dirigeant d'une start-up, d'une entreprise, entrepreneur. » Donc, tu vas aussi avoir de plus en plus de personnes qui vont essayer de te proposer d'aller avec eux dans des projets perso, type, je ne sais pas, « Ah, il y a tel terrain à acheter, etc. » Donc, c'est aussi ça, la gourmandise. Où est-ce que tu mets tes limites? Est-ce que dès qu'il y a un truc à manger, il faut le manger et réfléchir après.
On verra après.
Voilà.
Comme disent les Ivoiriens, genre...
Ce qui est dans ventre, voilà.
C'est que dans mon ventre qui est pour moi, comme disent les Ivoiriens.
Exactement. Donc, est-ce que toi, ça t'est arrivé d'avoir, déjà dans le premier cas de figure, en cas, créa, on vient de proposer un projet qui semble, on va dire, en lien avec ce que tu fais, mais qui, au final, tu n'y avais pas du tout pensé.
Et qui a des focus.
Ouais, voilà.
Clairement, parce que je vais te donner là, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai parlé avec Visa, potentiellement, qui, c'est pas Visa local, hein, c'est vraiment Visa au niveau monde, qui voulait faire, pour potentiellement la CAN et d'autres choses, du sourcing de meilleure qualité en termes d'impact. Donc, ils préfèrent plutôt qu'acheter des stylos en Chine, plutôt qu'acheter essayer de mettre quelque chose en place qui leur permette de faire des goodies avec des entrepreneurs africains. Donc, tu vois que la mission me parle. C'est un truc qui me parle, ça. C'est notre mission de faire ça. Mais très vite, j'ai compris que ce qu'ils attendaient de nous, c'est limite de faire le sourcing pour eux. Ce qui est lourd, ce qui est long, parce que nos vendeurs, c'est pas parce que je sais dire qu'est-ce qu'ils vendent que je sais dire s'ils savent produire en telle quantité, s'ils ont les délais, Et du coup, tu vois, il y a plein de gens qui se seraient dit « Oh, c'est super, c'est une belle opportunité, il faut le faire. » Et qui, le pire, c'est que ça colle avec la mission. Donc, je pourrais le défendre. Moi, j'ai dû leur dire « Écoutez les gars, je suis désolé, pour le faire bien, ça me demanderait trop de coûts par rapport à mes priorités du moment. Mes ressources, en termes de temps d'équipe, sont limitées. Donc, je vais les allouer d'abord sur mes priorités. Donc, ce que je leur ai dit, c'est ce que je peux vous proposer, c'est si vous voulez, on peut vous trouver et vous faire un contrat spécifique avec un presta qu'on connaît, donc des gens avec qui nous on travaille, qui peuvent vous faire ce consulting-là de sourcer les gens. Nous, on peut être l'intermédiaire en termes de plateforme ou de source de données, mais on ne sera pas ceux qui vont faire ce projet avec vous. Ils vont dire « Ah, mais si on fait ça, vous perdez le partenariat, l'occasion. » J'ai dit « Je comprends, hein, mais l'impact est plus important qu'avoir le nom d'Africrea sur le truc ou le nom de Anka. Et encore plus important pour moi, c'est rester concentré sur mes priorités. » Donc, je pense que la conclusion reste vraiment... Ce dont Philippe a parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble sur la diversification, pour le coup, c'est il faut une vision. Il faut que tu saches où tu veux aller. Et je pense que ce qu'il faut rajouter à la vision qu'on a évoquée, c'est il faut savoir à quel rythme tu veux aller. Le but, c'est pas de se dire je zigzague en permanence dès qu'il y a un truc, je fonce.
Exactement.
Une fois que tu as une notion de gestion de ton énergie, de tes ressources, de ton temps, de ton argent, tu te dis ok, moi je veux arriver là à telle date et tu sais ce que tu peux t'autoriser ou pas d'ici là.
Ouais.
Je pense que c'est ça. Hein. Mais toi, je sais que tu m'en avais parlé aussi beaucoup que dans votre cas, oui, les agences, en plus, des fois, c'est vos clients.
Oui, parfois, tu as les clients qui vont te demander un truc parce que, en fait, le client, quand il a un prestataire qui a confiance, il va avoir tendance à à lui demander des choses
qui sont à côté.
Qui sont à côté parce qu'il se dit l'essentiel, c'est qu'il y a une relation de confiance. Donc, moi, je travaille beaucoup pour éviter ça, sur ce qu'on appelle des onboarding clients.
Les onboarding clients ?
Ouais.
Ah, d'accord.
En fait, c'est un document, quoi. C'est un scope qui est très clair, qui rappelle, en fait, tout ce qu'on est censé faire dans le cadre du contrat. Mais non, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de faire un extra si on le peut, mais ce que je veux surtout pas, en fait, ce qui est très difficile, c'est que quand vous sortez de zone, quand vous offrez un service que vous n'avez pas l'habitude de faire...
La qualité est moins bonne.
De un, et puis ça devient une habitude. C'est-à-dire que la personne se dit, du coup, je peux leur demander ça. Donc ça, c'est très important et tu peux te perdre. Et quand tu vas dire, mais en fait, je ne fais pas ça, tu dis, mais si, vous l'avez fait la fois dernière, donc c'est de la mauvaise foi, etc. etc.
Là, tu parles d'expérience. C'était arrivé, en fait, de le faire, peut-être, quand tu étais au début.
Oui, mais en fait, moi... personnellement, et c'est là où les clients sont malins, moi je mets des limites, l'expérience pour mettre des limites, mais parfois on peut avoir par exemple je sais pas, chef de projet qui vont être un peu moins expérimentés et qui vont tout petit peu se faire avoir, tu vois, c'est-à-dire on va demander un truc je sais pas, une créa mais qui n'est pas pour le digital, bon, le client a demandé, donc on va le faire.
Ah, une créa, qui n'est pas pour votre canal ou votre métier.
C'est ça.
Et c'est vrai que tu m'as dit, en plus, que c'est vous, c'est un peu le penchant de votre qualité d'être très focus client. C'est que les gens ont beaucoup de mal à dire non au client.
Ouais, c'est ça. Et tu vois, parfois, on va faire une vidéo, ils ont tellement aimé qu'ils vont dire, ah ouais, il faut que ça passe en télé. Maintenant, après, les clients sont quand même conscients que les questions de droit, de digital et de télé, ce n'est pas pareil, etc. Après... Par contre, pour reprendre une zone de défocus qu'on a aussi dans lesquelles on n'est pas du tout tombé. Mmh. Tu sais, nous, on nous associe beaucoup aux influenceurs.
Ah oui.
Du fait des projets qu'on fait avec eux.
Ouais. Et de Adicom, la
communauté. De la communauté, etc. Et donc, moi, j'ai déjà eu vraiment beaucoup de personnalités digitales, etc., qui m'ont demandé si on pouvait les manager.
Ah oui, logique, ouais. C'est un autre business, mais pas loin.
C'est un autre business, en fait, tu vois.
Ah oui.
Mais c'est gérer leur carrière, gérer leur contrat, etc., etc. Et c'est quelque chose sur lequel moi j'ai toujours mis un veto.
Mais t'as envie de le faire?
Alors, c'est très intéressant. Très intéressant parce que une des choses que j'aime le plus, c'est travailler avec des talents.
Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ça, que t'as envie de le faire.
Tu vois,
c'est là où la gourmandise.
Exactement.
T'as envie d'être dans ce deal.
Voilà. Mais tu ne dois pas toujours céder à la gourmandise. Mmh. Parce qu'en fait, le rapport, et on en reviendra peut-être sur le sujet pricing, mais le rapport entre l'effort et ce que tu gagnes n'est pas assez important à mes yeux, selon mes analyses.
Maintenant, c'est la profitabilité, en fait.
Mais je dis toujours à toutes les personnes qui, en interne, me disent « Ah, patron, on devrait faire ça. » Tu vois, souvent,
ça revient.
Je dis, si on me prouve comment on peut fonctionner. Et là, on est en train de trouver une approche.
Un format.
Une approche, un format avec de la coproduction. Mm-hmm. Travaille beaucoup avec Michel, que tu connais. là-dessus. Donc voilà. Mais ce n'est pas du management de talent. Après, moi, d'un point de vue purement personnel, j'aide. Allez, je donne conseil à pas mal de talents, un peu plus même à des fois même de très très gros talents, mais c'est je leur demande pas un truc en échange.
Ouais, pas de rémunération.
Voilà, pas à ce stade.
Un pourcentage de.
Non, en fait, j'aime beaucoup quand je suis en face de personnes qui, je me dis, avec ou sans moi, ils vont aller très loin. Ah. En fait, c'est moi qui. Finalement, j'aimerais faire partie de
leur aventure.
Et on verra après. Mais tu vois, ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, la tentation est forte sur le management de talent parce que ça a la gueule de dire je gère un tel
influenceur. Ouais. C'est du swagger. Hein.
Ouais. Et je parlais, c'est marrant parce que j'en parlais avec une société hors de Côte d'Ivoire. Dans un autre pays africain avec qui on recherche des pistes de collaboration. Et c'est marrant parce que cette structure fait penser à Totem et à... comment dire? Mais avec des dirigeants qui ont 10 ans de moins.
Ah, ils sont plus jeunes.
Oui. Mais tu vois, et puis c'est marrant parce qu'ils ont suivi aussi l'évolution de Totem, d'Adicom, tout ça. Et... Eux, par contre, ils ont une section...
Influencing.
Ils ont une section influencing.
Non.
Et c'est la première fois, si m'écoutent, mais que j'ai posé la question, parce que je pose toujours la question aux gens qui sont dans la gestion de talent en disant, mais...
Est-ce que c'est rentable?
Exactement.
La grande question que tu dis toujours, il faut poser aux gens, personne ne le pose.
C'est ça. Il faut demander. Et ils m'ont fait une réponse vraiment intéressante. Honnête, pragmatique et également très smart. C'est-à-dire qu'on dit que c'est pas rentable, mais par contre, les opportunités autres que ça crée, en fait, ils en ont fait un canal d'acquisition. Et ça, j'entends, tu vois.
C'est du marketing, quoi.
Voilà.
De nouveaux clients.
Exactement. Voilà, ça, j'entends, tu vois. Mmh. Et après, j'ai poussé, j'ai dit, ah, tiens, intéressant. Après, j'ai demandé, mais ça, c'est une idée que vous avez eue dès le départ ou vous en êtes rendu compte après? Bon, ils m'ont dit, ils s'en sont rendu compte après. Eux, ils pensaient que ça allait rapporter beaucoup au départ. Ouais. Donc, voilà pour la petite histoire, ouais, sur... Mais tu peux... Tu sais, on a utilisé le terme tous les deux de défocus. Moi, je me souviens, c'est Tonji qui m'a parlé de ça pour la première fois. Est-ce que tu... Ouais. Mais il y a longtemps. Hein.
Tonji de l'Afrostream, ancien.
Focus, défocus. Ouais. Est-ce que tu peux en dire deux mots peut-être pour...
Pour les gens alors, c'est vrai que c'est un concept qui est très évident chez les startups.
Ouais, exactement.
C'est vrai que c'est plus compliqué à expliquer que quelqu'un qui n'est pas dedans. Non, mais c'est intéressant comme concept, et c'est vrai que c'est très propre aux startups, mais difficile à expliquer en dehors. Mais il faut se dire que chez nous, deux choses. Chez les startups, la clé du succès, et ça a été montré maintes fois par autant des grosses startups comme Uber que Airbnb, il faut commencer petit et focus. Donc, il vaut mieux servir un petit nombre de clients dans une zone réduite où tu deviens l'expert et ensuite tu élargis. C'est un peu lié à la théorie du monopole de Peter Thiel, qui dit qu'en fait, une startup, tu dois viser le monopole. Tu ne dois pas viser la compétition. Donc, en fait, la conséquence de ça, c'est qu'il se dit... En fait, lui, il explique ce que tu dis, en fait. C'est marrant parce que j'aurais jamais pensé faire le lien, mais lui, il dit qu'en fait, la compétition tue les marges, le profit, l'innovation, et donc est anticapitaliste. Et c'est marrant, hein. Lui, c'est un grand libéral, et il dit un bon capitaliste ne cherche pas la compétition. Un bon capitaliste ne va pas loyer de la compétition. Même si tu dois être sur un marché où il y a des alternatives autres, toi, tu dois te créer une niche profitable, un océan bleu pour certains.
Ah, merci.
Que tu...
Ah bon.
Que tu...
Ah
que,
bon,
que
parenthèse.
Oh là là.
Parenthèse. J'attendais. Bah,
tu vois l'ouverture.
Je voyais l'ouverture depuis.
Non, c'est...
Alors, pour la petite histoire, ça fait des semaines... Moi, je dis à Moulay, faisons un épisode sur la stratégie de l'océan bleu. Et ce monsieur a dit, je vois vraiment pas ce qu'il y a à dire là-dessus. Le voilà maintenant qui est en train de parler de ça. Donc, dites-nous en commentaire si ce thème vous
intéresse. Vous intéresse l'océan bleu, qu'on creuse un peu. Mais c'est vrai qu'en start-up, c'est difficile parce qu'en fait, on ne l'emploie pas comme étant la même stratégie. C'est moi qui fais le lien là en top.
Ouais, ouais, je sais.
Mais nous, ce qu'on dit, c'est juste. Ce qu'ils disent en start-up, c'est notamment Peter Thiel illustre l'objectif en disant tu dois avoir un produit qui est 10 fois meilleur que toutes les alternatives. Et ça ne peut pas être 10 fois meilleur du coup pour tout le monde. Ça ne peut être 10 fois meilleur que pour un nombre réduit de gens dans un endroit spécifique. Typiquement, t'es Uber, tu peux pas être 10 fois meilleur que les taxis partout dans le monde. Par contre, tu peux te faire 10 fois meilleur que les taxis dans tel quartier de la Californie. Tu peux être 10 fois meilleur que les taxis dans telle ville. Airbnb, tu peux être 10 fois meilleur que les hôtels.
C'est intéressant parce que ce que tu dis est totalement à l'opposé effectivement de si tu as un esprit de gourmandise.
Exactement. Faut être très petit. Et c'est très très start-up ça. En fait, c'est du coup, ça fait que beaucoup de startups, ça que même Amazon a commencé avec que les livres. Alors que dès le début, Jeff Bezos voulait faire le Everything Store. Mais il a choisi les livres parce que c'était les produits qui étaient, un, les plus faciles à expédier, non périssables, faciles à expédier. On parle de 99 hein, quand ça a commencé Amazon. Donc, c'était pas comme maintenant. Non périssable, facile à expédier, tu connais les poids facilement. Et c'était l'article où il y avait le plus de primes à la largeur de l'inventaire. Alors, un livre, si tu veux telle édition de tel livre, tu peux attendre très longtemps pour le trouver ou très dur à trouver dans la librairie du coin de chez toi. Ce qui est différent de aujourd'hui, ce qu'ils vendent par exemple qui est électroménager, où tu pouvais le trouver dans n'importe quel magasin. Donc ils ne faisaient pas d'électroménager avant d'avoir la capacité de livrer plus vite que d'autres. Donc c'est... Et tu vois, en fait, c'est-à-dire que selon tes capacités et ton timing, tu dois déterminer là où tu dois être le meilleur.
Mais toi, tu dois le voir de très près, toi, avec tous les créateurs qui sont sur la plateforme. Cette envie, peut-être, de je fais à la fois des robes, je fais à la fois des...
Des robes, des t-shirts, des sacs. Alors, c'est un truc que je dis souvent.
Mais en même temps, tu dis souvent qu'il faut avoir plusieurs produits.
Il faut tester. Ce que je dis, mais les gens l'interprètent très mal. Je dis souvent, il faut itérer. Il faut avoir plusieurs produits. Il faut en avoir. Et c'est ce qui est difficile, c'est de te dire... Moi, je leur dis, il faut qu'ils mettent... des nouveautés minimum tous les mois, idéalement chaque semaine. Et les gens me disent, bah, du coup, je vais faire d'autres produits. Mais c'est juste par facilité. C'est vraiment de la gourmandise un peu mal placée. C'est quand moi, je leur dis innover, les gens comprennent diversifie. Je ne sais pas si tu vois un peu la différence. Parce que c'est ça que, d'ailleurs, je suis connu, bah, comme tu as remarqué plein de fois, je n'aime pas la diversification comme stratégie. Parce que de mon expérience, c'est même, on va prendre des vendeuses qui font beaucoup de ventes chez nous, je ne sais pas, même Grassfield, etc., la plupart de leurs ventes, 80% viennent de 20% des produits. Un ou deux produits, exactement. Et ces produits-là, un, elles ont trouvé parce qu'elles en ont créé plein et à un moment, elles tombent sur celui-là. Deux, c'est très dur de les maintenir. En fait, ça demande énormément d'efforts quand tu as un best-seller de garder tes fournisseurs, te fournissent, tu retrouves les produits. Et c'est là où est le combat, en fait. C'est pas dans aller chercher un autre produit. Donc, il y a cet effet de balance qu'il faut avoir quand tu veux être focus. Et c'est ça, le focus. C'est créer un produit qui est meilleur que tout ce qui est comparable, Donc, il faut quand même l'améliorer, il faut le maintenir, il faut rester constant. Mais du coup, tu dois dire non à toutes les choses que tu peux faire en plus.
Mmh. Et il faudrait aussi préciser, je pense, que ce dont on parle, ça ne s'applique pas que aux petites entreprises. Parce que
on
pourrait se dire, oui, bon, ils ont sûrement raison quand on parle de... Enfin, je suis une petite entreprise, je démarre, donc vaut mieux que je sois focus. Mais il y a plein d'exemples de très grands groupes qui ont tenté de se lancer dans un truc. Tu vois, par exemple, là, j'ai en tête Société Générale avec Yup.
Ah putain, ouais, qu'ils ont dû enlever là.
Qu'ils ont fermé.
Oh, mais, c'était horrible.
Mais combien de millions ils ont investi en développement, en truc.
En énergie, en équipe, pour ça.
Énergie, en équipe.
Ouais, non, mais
et
c'est un très bon exemple.
C'est
alors,
pas...
Yop, c'était... Les gens ne savent pas c'est quoi pour ceux qui ne sont pas à Abidjan.
Oui, c'est vrai. C'est... On peut définir ça comme un portefeuille électronique.
Ouais, ils voulaient faire un portefeuille électronique, Société Générale, qui te permet de transférer de l'argent de ton compte bancaire vers la mobile money, vers nanana.
Exactement. Ce qui est intéressant, justement, tu fais bien de définir quel est ce produit, parce que les gens pourraient se dire, bah, tiens, pourtant, les gens utilisent, ils utilisent l'appli de telle banque, telle mobile money. Donc, les gens sont habitués à ça. Mais imposer une application sur le continent africain, c'est pas dur. La même chose qu'ailleurs. Ça demande vraiment une approche. Tu vois, peut-être qu'un jour, on aura la chance, je sais pas, de détailler la stratégie de Yango, par exemple.
Oui, mais c'est la même chose que Uber. Ils ont été très... stratégique, hein, vraiment.
Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui travaillent aussi sur le terrain.
Exactement.
Qui sont dans les rues, dans les chauffeurs, qui font de la pédagogie, etc. Et c'est comme pour Mobile Money.
Mais c'est
Orange
comme
Money, c'est... c'est vraiment de la proximité sur le terrain, à l'intérieur du pays.
Ouais, je donne un exemple exactement. Mais Wave a un bon exemple là-dessus. On va prendre des startups qui n'ont pas été gourmands parce que quand Wave se lance en Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont fait un an sans être à Abidjan.
Il
n'était que dans les petites villes. Alors que la plupart des gens, par gourmandise, auraient voulu aller là où il y a le plus gros gâteau.
Et tu remarqueras aussi, faut vraiment regarder ça comme je le fais pour voir ça, mais tu as beaucoup de commentaires de gens qui disaient si vous lancez même, lancez une SIM là, lancez une SIM,
un
vous
attendez,
etc. Ouais. Tu vois, donc tu peux aussi être pris dans la hype.
J'ai vu des Photoshop. Il y a des gens qui ont fait des Photoshop de Sim Wave.
C'est ça.
Alors que c'est pas vrai. Wave était là, mais non, on fait pas ça. Enfin, parce que les gens les voyaient comme l'ennemi de Orange, l'ennemi de TMTN. Alors que c'est même pas vrai en vrai. Eux, ils se voyaient pas particulièrement comme ça. Ils étaient, on a un produit qui peut être là-dessus, mais ils se voyaient
après les internets. Après, c'est
Et c'est les clients. Comme tu dis souvent, les clients, ils t'amènent sur des choses par rapport à ce dont. Comment eux, ils te perçoivent. Mais après, il y a ce que toi, t'es capable de faire. Et c'est là où. Pour relier à la gourmandise, à un moment, il n'y a que de connaître ton estomac. Les gens viennent te voir en disant « Mais goûte ça, essaye ça, mange ça. Tu peux manger ça, non, c'est trop bon. »
Mais
alors qu'en fait, toi, tu as déjà du mal à digérer ce que tu manges. Parce que le piment, là, il ne le mange pas dans ta bouche. Hein. En fait, eux, ils te donnent le piment, mais après, c'est toi qui vas devoir assumer derrière à la sortie.
Et juste préciser, parce que quand on dit itérer, on dit toujours « Il faut écouter son client, machin. » Mais on n'est pas en train de dire que si le client dit créer un autre département, créer un autre produit. Attention. Non, quand on dit itérer, c'est juste quel est son feedback sur tel produit.
Ouais, et comment l'améliorer.
Voilà, comment l'améliorer. Finalement, quel est le service que vous préférez. Ouais. Mais pas, écoutez, tu vois, ça me rappelle quand j'avais le média, Totem TV.
Ouais.
Punaise, le nombre de gens qui avaient des conseils à donner.
Mais moi, c'est pareil.
C'était... Le gars, il vient une fois, il dit « Mais pourquoi vous ne faites pas en anglais aussi? Il faudrait deux sites, il faudrait aussi en anglais. »
C'est évident.
Bon, moi, après, comme je suis quelqu'un, je dis « Ah oui, bonne idée, tu vois. » Mais je lui dis « Bonne idée, on me l'a déjà dit 15 fois. » Moi-même, j'ai réfléchi. Mais
tu sais que c'est les ressources qu'ils ne vont pas avec pour le retour.
Mais oui, ou enfin bref. Et donc, il faut faire attention quand on dit les feedbacks. Il faut vraiment savoir, il faut mettre une zone de
définition. Moi, je pense que le mieux, c'est, bon, les temps que je reviens un peu avec des chiffres, ça fait longtemps que j'ai...
Ah oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'on est...
On est en train de bouffer que...
Il faut perdre les...
Il faut perdre les bonnes habitudes. Les gens viennent quand même nous voir.
Je vais t'écouter avec un...
Ouais, vas-y. Alors, déjà, première chose, pour s'assurer que ce que tu fais en startup, on dit, pour vérifier que tu itères ou que tu es en train de pivoter sans te perdre, quand tu n'es pas focus, le premier critère, c'est quand tu pivotes, tu dois avoir toujours ton pied d'appui qui reste au sol. Littéralement. C'est-à-dire que si tu te retrouves à devoir bouger et le type de client et l'usage et le canal de distribution, ce n'est plus un pivot. Tu as trois domaines, en gros. Donc, il faut que tu regardes. Si tu restes sur les mêmes clients, le même usage, mais que tu changes juste de canal de distribution, en gros, c'était en ligne, maintenant, en texto, c'est une itération. Mais si tu commences à dire, j'ai les mêmes clients, mais ils me demandent d'aller maintenant sur en physique alors que j'étais en ligne, et en plus, ils me demandent derrière, c'est plus pour le même usage de vente en ligne, mais c'est pour du paiement, c'est un autre service. Paiement physique, moi, ça m'intéresserait de faire du paiement physique. Mes clients voudraient que je leur fasse des TPE. Mais c'est plus de l'itération. C'est un nouveau domaine. Et donc, les trois critères faut que tu regardes, quand tu regardes, c'est toujours, est-ce que c'est la même base de clients? De façon très précise, hein, c'est-à-dire, ta base de clients, c'est les SMEs qui ont telle taille. Ce n'est pas toutes les SMEs. Ensuite, est-ce que l'usage est le même? Et est-ce que le canal est le même? Si tu changes l'un des trois, tu ne pivotes plus. Non, si tu changes qu'un des trois, tu pivotes. Si tu changes plus que un,
tu changes complètement.
Tu changes. En fait, tu es plus dans le pivot, c'est tu décolles les deux pieds. Tu essayes quelque chose d'autre. Et en startup, il y a une autre façon de le mesurer, mais ça, c'est plus chez les SaaS, donc c'est un peu moins dur à appliquer chez d'autres. Je ne sais pas si toi, tu pourras appliquer ça, mais tu me diras, c'est normalement, si tu lances un nouveau produit SaaS, tu vois, par exemple, nous, quand on a lancé le shipping, le critère pour savoir si c'était le pivot a été justifié, c'était que le chiffre d'affaires des autres lignes de revenus doit augmenter. Si tu fais un truc qui, quand tu le fais, prend des ressources sans faire augmenter les revenus précédents, pas les nouveaux revenus. Pas les nouveaux revenus. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, ils tentent des nouveaux trucs avec de nouvelles ressources qui n'apporteraient rien aux revenus précédents. Dans ce cas-là, là, tu diversifies. Là, tu es dans un autre exercice. Mais si tu veux itérer, tu peux ajouter une offre à ton client si ça permet d'augmenter. Si ton client, quand tu lui offres ça, comme c'est égal, tu fais de l'influencing, mais grâce à ça, tu lui vends ton service de gestion des réseaux sociaux. Là, c'est bon. C'est-à-dire, tu n'as pas perdu. En fait, normalement, tout nouveau produit doit permettre de vendre mieux les précédents produits.
Ou te permettre, tu me diras si tu es d'accord, de réduire les coûts de tes précédents
produits. Exactement, ouais. C'est la même chose.
Parce que nous, par exemple, on a développé la factory.
Oui, bien sûr.
L'entité de prod.
Ouais.
D'ailleurs, nos amis,
ils sont là. Dans la place.
D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous produise votre podcast.
C'est le moment.
Voilà.
Gourmandise, si vous voulez tester, c'est le moment. Si vous voulez...
Mais ça permet effectivement d'avoir d'autres sources de revenus, mais également de réduire les coûts de production des projets actuels.
Exactement, et c'est ça. Donc en fait, oui, excuse-moi, j'aurais dû dire qu'il permet d'augmenter ta marge.
Exactement.
Pas augmenter tes revenus. En fait, c'est ça, c'est augmenter ta marge. Et c'est ce qu'a fait Amazon. Quand les gens ont, à un moment, l'un des plus gros pivots violents, en tout cas en termes d'élan que les gens n'ont pas compris, c'est quand Amazon a lancé AWS, les services de hosting.
Mais c'était quand ça d'ailleurs?
Alors, ça date.
Parce que j'ai vu les chiffres.
C'est récent, c'est 2008-9, je pense qu'ils ont lancé. Excuse-moi, 2008-9, excuse-moi, je réfléchis. 8-9. 2008-2000, je crois.
C'est ça que tu dis récent, d'accord. Mais ça fait c'est impressionnant parce que c'est aujourd'hui.
C'est ça qui est la cash-cow d'Amazon. C'est ça qui fait qu'Amazon existe. Prime Video n'existerait pas sans AWS, tout. Et c'est parti de ce que tu décris. C'est-à-dire que les gens d'Amazon se sont dit aujourd'hui, on dépense énormément en hosting, en pouvoir, pour pouvoir maintenir notre site partout dans le monde, en haute disponibilité, comme cette production. Et ils se sont dit, on va améliorer ça et réduire nos coûts. Mais la technologie qu'ils ont utilisée pour réduire leurs coûts et load balancer est celle qui est au cœur d'AWS. Et les gens auraient pu leur dire, mais pourquoi vous allez mettre ça comme un service? C'est même pas les mêmes clients. Parce que pour le coup, ce n'est pas les mêmes clients. Les clients d'AWS ne sont pas des gens forcément qui achètent sur Amazon. C'est même pas lié, ça n'a rien à voir. Un, c'est des B2B, l'autre, c'est du B2C. Mais ils l'ont fait parce qu'en fait, ça leur permettait leur coût de le transformer en source de revenus 1. Et donc, c'est devenu hyper profitable après. Mais l'autre chose, comme je décrivais, c'est dans l'usage. Ils se sont rendus compte que quand ils mettaient AWS un peu partout et que tout le monde utilisait AWS, ça renforçait l'image que les gens avaient d'Amazon en général. Parce qu'ils n'étaient pas vus comme étant une boîte très, très tech, Amazon, avant. C'était vu comme étant un peu les logisticiens qui vendent en ligne. Et quand AWS est arrivé... D'un coup, les gens ont fait « Mais attends, merde, ils font vraiment de la tech, ces gars-là. C'est pas… Et du coup, ça change tout ton profil. Investisseur, client, partenaire, tout le monde se dit « Ah, c'est une vraie société technologique. » Donc, c'est ça un peu le truc. C'est là où tu as raison, c'est que des fois, ça peut être les coûts. Tu as raison, c'est pas forcément quelque chose qui… Donc, une opportunité, des fois, il faut vraiment la juger. Et eux, pour le coup, ça a augmenté leur marge significativement. Parce que comme tu as dit, quand j'ai partagé, je crois que 50% de la marge d'Amazon, c'est AWS.
Ouais, j'ai vu ça, ça... Maintenant, chaque personne qui me parle d'e-commerce, je leur dis, t'as vu ça
Est-ce que tu sais?
Parce qu'ils veulent tous être le nouvel Amazon, mais...
il faut ça et...
C'est pas... Ouais.
Et il faut être donc très bon en tech, ça veut dire. Parce que pour faire ça, AWS, c'est... Enfin, en termes de prouesse technologique, ça a révolutionné le monde du cloud et de l'infrastructure de façon générale. Microsoft s'est mis derrière, Google s'est mis derrière, mais ils sont encore en retard.
Ouais.
Donc... Non, je pense
c'est
que
ce qui leur permet de, je suppose aussi, de
lancer
Prime sur, sur Prime Video.
Parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent investir dans d'autres trucs maintenant. Parce que faire des trucs comme Prime Video, ça permet de faire grandir d'autres clients. Là, c'est pareil. Là, c'est tes clients, on va avoir un usage plus gros. Mais Amazon communique toujours sur le fait que les clients Prime Video, qui regardent des vidéos, aussi achètent plus souvent sur Prime Amazon.
Ouais, donc ça te permet d'avoir des revenus.
Donc c'est ça.
C'est un écosystème. En fait... tu les as pour nourrir ton écosystème.
Exact.
La gourmandise, c'est t'as pas encore
fini de
ton,
gérer.
Ton écosystème et tu regardes déjà...
L'autre écosystème là-bas.
Après, tu vois, moi, je fais souvent la différence. Enfin, j'utilise ce dont on parle là pour faire la différence entre un businessman ou businesswoman et un entrepreneur. Une entrepreneuse.
Ah.
Parce que moi,
lui. C'est vrai que c'est pas la même chose.
Voilà.
Un businessman, c'est vrai, c'est normal.
Ouais, lui, il va chercher l'opportunité.
Lui, cherche. Parce que lui se joue dans l'interstice du marché. Il va acheter à A et vendre à B.
Timing, voilà.
Lui se positionne là-dessus. Il est pas en train de créer une entreprise structurelle qui va créer un produit acheté de façon organique.
Et il n'y a pas de souci avec ça. Enfin,
oui,
c'est pour être clair.
Non, mais il en faut.
Oui, il en faut. C'est-à-dire, il y a des gens qui, chaque opportunité, ah, tu sais, tiens, tu te souviens la boutique qui était là, mais ça s'est libéré et le propriétaire, il veut vite liquider ça. Il dit, ah bon, ok, bon, ben, tu vois, la personne. Donc, mais c'est quelqu'un qui va avoir déjà un mindset de businesswoman ou businessman et qui a... En fait, construit justement aussi des. Qui a des revenus sur le côté. Voilà, pour pouvoir
placer
investir
ça.
Dans,
oui,
voilà, placer
parce que ça va avec, hein, c'est un style de vie, ça.
Chacun doit avoir son truc. Et moi, je sais que tu viens me voir et tu me dis hey, j'ai trouvé un super business. Tu vois, ces tables-là.
on peut la vendre à deux fois son prix.
Ouais, je vais dire, ah ouais, intéressant, mais tu vas voir que je ne vais pas faire le follow-up.
Ouais, parce que ça.
Parce que, ouais, je serai
mais
sur.
Mais souvent, c'est que ça ne colle pas à ta mission. Il faut que t'aimes ça. Hein. Les gens qui font ça, souvent, c'est des gens qui ont cette passion de repérer les interstices du marché. Et après, ça aussi, un autre inconvénient. Attention, moi, c'est l'une des raisons. Bon, ça, on en parlera peut-être dans un autre épisode, je pense. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en parle plus des différents types d'opérateurs économiques, comme j'appelle ça, parce que c'est ça le nom, comme disent les gens de la presse à l'ancienne, opérateurs économiques. Voilà. Mais ça, il en faut. Mais le problème, c'est que chaque opérateur économique, du coup, a des. Eux, leur gros sujet, c'est la succession. Et tu verras beaucoup d'entreprises en Afrique, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu as un entrepreneur génial qui était un businessman incroyable, mais il n'a pas créé de vraie entreprise. Il n'y a pas de marché spécifique, pas de créneau clair. Et donc, quand la génération d'après arrive, il n'y a rien sur lequel se baser à part l'expérience du patriarche, souvent, qui, lui, a su identifier le tout de marché. Et en plus, ça change. Donc, c'est des gens qui, tous les jours, l'argent qu'ils ont généré sur un interstice, ils le maximisent pour le mettre sur le prochain interstice. Et boum, un coup... Tac, il tire. Boum, un coup, tac, il tire. Et c'est un autre exercice. Donc, eux, dans leur cas, c'est pas de la gourmandise, tu vois. C'est vrai que là, c'est pas de la gourmandise,
non.
C'est leur métier.
C'est leur métier, c'est de la stratégie, sentir les bons coups, faire du leverage. Non, il y a...
Mais il faut être clair là-dessus. Du coup, t'es pas un entrepreneur au même sens que nous, on l'est quand on fait une entreprise.
Exactement. C'est pas la même
différent.
Chose. C'est juste différent. Il n'y a pas un qui est mieux, pas mieux. C'est juste différent.
Voilà.
Donc, mais ça m'étonne qu'on n'ait pas parlé... La gourmandise des employés et du huitième péché capital selon Moulay. J'ai nommé
les side business.
Business. Mais bon, on en a parlé longuement.
On va mettre le lien de l'épisode 29. Si, c'était 29, juste avant celui de Fabrice. Épisode 29 avec la tribu.
D'accord. Épisode 29 avec
la tribu.
On en a parlé
très longuement,
le side business, pour ou contre.
Ouais.
La nuance aussi.
Je pense que c'est ça. Il n'y a pas de pour ou contre, ça dépend des gens.
Pour revenir, pour conclure sur gourmandise, ce serait bien que sur les différents péchés qu'on essaie d'illustrer en se disant, mais tiens,
quel entrepreneur
on accuse de tel ou tel péché. Et
puis, on l'identifie à ce péché.
Ouais. Donc, je sais pas, sur gourmandise...
Qui me vient ? Bon, moi, je t'ai dit... Enfin, je pense que moi, personnellement, les gens, j'imagine, à qui je vois le plus à côté de ça, c'est Oussama, Amar.
Ah, d'accord. Dans le côté...
Bon, effectivement, il y a un peu nos embonpoints respectifs qui peuvent nous soumettre à cette comparaison au péché de gourmandise. Mais je suis là dans le groupe Telegram. Yomi aussi est accusé de ça. Ou Philippe. Tu vois, avec Jean, le trait de gourmand.
Ah, le fait quoi ? Qu'ils diversifient...
Qu'ils sont, dès qu'il y a une tendance, ils se mettent dessus. Dès qu'il y a un sujet, il s'exprime dessus.
Ah, d'accord.
Tu vois ce que je veux dire ? Mais même Philippe, d'ailleurs, Philippe Simon aurait pu être quelqu'un que les gens accusaient de gourmand. Parce que de l'extérieur, moi, ce que les gens disent de lui, et c'est marrant d'ailleurs, on devrait lui envoyer cet épisode pour avoir son avis. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que la première chose qu'on a fait avec lui, on a parlé de diversification pour comprendre sa logique. Parce que même moi, de l'extérieur, c'est un truc, je disais, mais on peut pas être d'accord, lui et moi, là-dessus. Alors qu'en fait, si, ce qui nous réunit, c'est il faut une vision. Mais la vision, les gens la comprennent pas. Donc de l'extérieur, à quelqu'un
qui la comprend pas tout de suite.
Parfois. Ouais, parfois. Ouais. Donc, du coup, j'imagine que. Tiens, Philippe, c'est un bon exemple de super entrepreneur qui, je pense, est associé au péché de la gourmandise. Parce que c'est vrai que même les gens disent, à chaque fois, on me dit, mais il parle de tout et de rien. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il parle un coup de quel type de femme faut épouser ? Après, il parle de politique. Après, il parle un coup de finance. Alors qu'en fait, tu vois.
Ouais, mais en fait, bon, moi, je le vois pas comme ça. Peut-être parce que je sais qu'il est dans une mission de créer un média.
Exactement.
Et de, voilà, et donc de capter l'attention
au maximum.
Créer des sujets autour de ça, sujets de société. Maintenant, je comprends mieux quand les gens parlent des personnes qui font des formations sur des sujets de moment parce qu'ils se disent ah tiens opportunité
comme Oussama et Yomi là ils ont fait leur truc AI alors que le truc enfin,
c'est ça le truc qui a rapporté
ouais un million là
ok
le truc qui est même enfin le mot AI on a même pas fini de sécher la peinture d'avoir écrit le mot sur le mur ils ont déjà sorti une formation dessus
mais après bon ce qu'il faut dire toi tu connais Oussama du coup à The Family
ouais, bien
donc
sûr.
Parce que quand même, bon là, il y a en ce moment peut-être sur le côté formation, mais la plupart des gens, moi, je vois dans l'entrepreneuriat, quand ils pensent à Oussama Amar, ils pensent à tout ce qu'il a pu partager en termes de contenu, de formation.
Il nous a appris énormément.
Sur le monde de la startup, il a fait l'éducation entrepreneuriale.
De tout le monde.
De
moi, la mienne a commencé le coup d'État... a été fondamental et j'en ai parlé déjà dans ma compréhension du monde.
Genre, c'est ça.
Dans le monde
après, je sais qu'il y a eu un conflit public entre associés.
Ouais, qui fait que...
C'est peut-être ça que tu... Là aussi, tu parles de
gourmandise.
Gourmandise.
C'est qu'il a pas...
Comme on a dit au début de l'épisode.
Voilà.
Gourmandise et avarice, ceux qui veulent partager, ceux qui veulent plus.
Et surtout, gourmandise, ça se voit...
Et quand c'est public, c'est encore pire.
C'est encore pire. Quand les choses vont mal et que tu en vois un qui se barre avec l'argent... Ça renforce l'image de « il pense qu'à sa gueule, il est gourmand, il n'est jamais satisfait
».
Tu vois, alors...
Je crois qu'il y a des procès en cours.
Il y a des procès en cours. Il y a eu des grands débats sur LinkedIn où les gens... lui a posté, Alice a posté, enfin... Et du coup, et ça
m'est assez... Chacun dit qu'il avait ses raisons, ses droits, tout le monde...
Je pense, moi en tout cas de mon interprétation, c'est les deux sont d'accord sur ce qui s'est passé, ils ne sont juste pas d'accord sur le fait que ce soit légitime ou pas. C'est plus là où il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit Oussama a jamais dit c'est pas vrai j'ai pas pris l'argent. Il a dit j'ai pris. Une fois que ça s'est dit donc il n'y a plus de débat sur c'est arrivé ou pas. Le débat c'est est-ce qu'il a le droit ou pas. Et personnellement moi de l'extérieur ça me fait toujours un peu mal parce que déjà en tant qu'entrepreneur j'ai du mal à me dire mes associés et moi ça se termine comme ça quand on a été aussi proches.
Mais en plus c'est des gens que tu connais
personnellement. Et ça me met dans un autre niveau de douleur parce que il faut savoir aussi, la gourmandise, un autre trait qui est un autre aspect qui est lié, c'est que souvent c'est un truc que tu as déjà été accusé. Oussama a déjà été condamné pour abus de biens sociaux, mais en sursis. Donc si tu veux, ça renforce aussi. Le gros problème est de péché capitaux.
Ça renforce le fait que les gens
se disent, avoir tendance à dire, c'est sûr qu'il a fait. Et c'est ça le problème des péchés capitaux. On a pu parler de paresse, de choses comme ça. C'est quand les gens t'associent à un péché capital. À chaque chose que tu fais qui se rapproche même de loin, ils vont dire mais dans tous les cas lui on sait qu'il est comme ça. Et ça renforce les croyances que les gens ont sur toi et c'est hyper dur même après rationnellement de les faire abandonner cette image de c'est ça son défaut.
Ouais je vois.
Son défaut et donc la tempérance c'est le seul moyen de s'en tirer c'est en fait il faut être mesuré autant que tu peux et comme tu dis nuancé je pense que c'est la tempérance c'est la seule façon de gérer la gourmandise tu vois bon Il fut une époque de ma vie, tu m'aurais montré ça. Il y a des amis à moi, je suis sûr, je leur envoie cette table. Ils vont te dire, mais Moulay, tu peux manger tout ça.
Ah ouais, c'est chaud.
Parce qu'à une époque, je gagnais des concours. Tu vois, j'avais même un prix, j'ai gagné.
Hein, un prix de quoi?
Concours de bouffe aux États-Unis.
T'es sérieux?
Mais oui.
Ouais, je crois qu'on...
On arrête là.
Ouais, on va arrêter.
Mais j'ai changé, je suis une personne nouvelle.
Non, bah en tout cas, c'était très intéressant. Ouais.
Quel mot tu dirais, tu garderais pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, qui puissent nous partager un peu ce qu'ils ont... Est-ce que ça les a inspirés, tout ça? C'est...
Je veux dire...
Parce qu'on a parlé de focus.
Modération.
Modération.
Avec modération. Enfin, qu'est-ce que tu dirais, toi?
Moi, j'aimerais bien entendre ce qu'ils pensent en termes de focus.
Focus, ouais. On a beaucoup parlé de focus.
Yeah. J'aimerais bien.
Faites-nous des commentaires en utilisant le terme focus.
Ouais.
Abonnez-vous.
Et dites-nous s'il y a d'autres choses que vous voudrez dans ce qu'on a parlé, qu'on creuse.
Ouais, on peut creuser. On peut creuser. Je pense qu'il y a pas mal de petits trucs, effectivement, qui donnent des idées pour des épisodes entiers.
Ouais.
Donc voilà, focus, ouais, c'est pas mal.
All right, les gens.
Abonnez-vous, hein.
Important.
Petit, allez.
Petit like, c'est gratuit. Petite cloche. C'est gratuit aussi.
Et j'espère que vous avez suivi cet épisode devant un bon plat.
Parce que si vous voulez, sinon vous venez à Abidjan, vous savez où nous trouver. Hein.
Voilà. Allez, à ciao.
À plus tard.